Carnet de région.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Le Gard.
Aude.
Lozère.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue à tous dans votre carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon. Au sommaire de ce rendez-vous d'information, retour tout d'abord sur les résultats des élections législatives en Catalogne espagnole et la victoire en demi-teinte de la coalition indépendantiste. Commentaire et analyse d'Albert Noguet de Radio Arels à Perpignan. Axel Kahn, généticien, universitaire, de passage dans le Gard à Alès pour présenter son dernier livre cette semaine. Il n'a pas pu s'empêcher d'ironiser sur les difficultés rencontrées par l'UMP. La réforme de la PAC, la politique agricole commune, comme une épée Damoclès au-dessus de la tête des agriculteurs. Le président de la FNSEA, Xavier Belin, était en Lozère cette semaine. Ludovic Terrol de 48 FM l'a rencontré à ce sujet. Les Cévennes, plutôt connues pour leur côté rural et agricole, elles ont pourtant été un haut lieu de l'industrie avec une forte population ouvrière. Ce week-end à Ganges, dans le nord de l'Hérault, une manifestation rend hommage à leur mémoire, un sujet de Rémi Goujon de Radio Escapade. 627 millions de feuilles papier traitées par an par l'administration française, du poids, de l'espace et de l'argent. La solution, la dématérialisation des documents administratifs. Une première en région Languedoc-Roussillon cette semaine, la signature d'une convention entre la communauté de communes Lodévois et l'Arzac et la Chambre régionale des comptes. Reportage d'Alain Mendès de Radio Lodev. Continuez à étudier, même hospitalisé, le CHRU de Montpellier en partenariat avec l'inspection académique et le rectorat ont détaché 15 enseignants. Reportage de Cédric Combé d'RCF Maguelone Hérault à l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Et puis la judokate audoise Auton Pavia, médaillée de bronze au JO de Londres, vient de signer un partenariat avec le Conseil Général de l'Aude. Des précisions dans ce carnet de région avec Éric Boyer d'RCF Pays d'Aude. En Espagne, la coalition nationaliste catalane emmenée par Artur Mas, située au centre droit, perd 12 sièges mais conserve sa majorité relative au Parlement catalan après les élections législatives de dimanche dernier. La Catalogne espagnole, 8 millions d'habitants, la plus riche de la péninsule, avec en ligne de mire l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de cette région. Comment ces résultats ont-ils été vécus dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne Nord, à Perpignan, Albert Noguet de Radio Arels.
Au niveau local, d'un côté, l'UMP, qui il y a un peu moins de deux mois, a signé une convention avec Convergència Democràtica de Catalunya, qui est présente, qui est implantée ici, dans les Pyrénées-Orientales. Et dans le contenu de cet accord, on parle même d'utiliser l'article 72 de la Constitution française qui permettrait de créer une collectivité territoriale qui travaillerait vraiment d'une façon très proche avec la Catalogne Sud et surtout qui pourrait se traduire donc par la fusion des compétences du département des Pyrénées-Orientales et de la région Languedoc-Roussillon. Et de notre côté, il y a le Parti Socialiste qui semble ne pas croire cette marche vers l'indépendance de la Catalogne. Le président de la région, Christian Bourquin, pense même que le résultat de ces élections peut signifier que le peuple catalan veut rester espagnol. Ce n'est bien sûr pas la lecture que font la grande majorité des observateurs et peut-être que Christian Bourquin est influencé, mal influencé par ses homologues du Parti Socialiste de Catalogne qui ont vraiment perdu ces élections et sont maintenant tout à fait en décalage par rapport à cette nouvelle réalité.
Albert Noguet de Radio Arels à Perpignan pour le carnet de région. Inquiétude des agriculteurs au sujet du devenir de la politique agricole commune. Xavier Belin, le président de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire en France, était en Lozère la semaine dernière pour soutenir la section départementale dans la course à l'élection de la Chambre d'agriculture. Mais le vrai sujet, c'est bien la PAC, car la Commission européenne a proposé de ramener l'enveloppe budgétaire de 420 milliards d'euros pour les années précédentes à 386 milliards d'euros pour les années à venir, avec des conséquences évidentes pour les agriculteurs. Xavier Belin, au micro de Ludovic Terrol de 48 FM Mende.
La PAC aujourd'hui, en réalité, c'est 25 centimes d'euros par jour par Européen. Alors, est-ce que c'est beaucoup trop pour avoir une alimentation diversifiée, saine, sécurisée? Est-ce que c'est beaucoup trop pour avoir une agriculture qui aménage aussi les territoires, pour créer de l'emploi? Je pense qu'il faut aussi qu'on se pose de temps en temps les bonnes questions. Bon, beaucoup d'observateurs demandent un peu plus d'Europe, notamment pour tirer la croissance, et on voit bien que tous les États membres sont aujourd'hui plutôt sur le reculoir parce que considèrent qu'on veut moins contribuer au budget global. Et on voit bien que, enfin, dans cette équation, moins le budget sera consistant à Bruxelles, et plus nous aurons des difficultés ensuite dans sa répartition à l'échelle nationale pour prendre en compte toutes les revendications, qui toutes peuvent apparaître plus ou moins d'ailleurs légitimes. Hein, mais si je regarde ce qui se passe ici dans un département comme la Lozère, l'ICHN, la prime à l'herbe, le soutien à la viande bovine, le soutien aux exploitations laitières, le soutien aux ovins, bon, tout ça est parfaitement légitime. Encore faut-il que nous maintenions évidemment un budget nécessaire.
La PAC, une aide européenne calculée sur la superficie des exploitations agricoles et qui représente aujourd'hui 40% du budget européen. Les pays sont divisés. La France, l'Espagne, l'Irlande, la Roumanie, l'Autriche ou le Portugal sont partisans d'un maintien de la politique de la PAC. À l'inverse, d'autres pays sont davantage favorables à une réduction des budgets, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark ou encore l'Allemagne.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Au chapitre politique, Axel Kahn, de passage en Languedoc-Roussillon cette semaine, a dégainé. Axel Kahn, généticien universitaire, répondait à l'invitation de l'école des mines d'Alès et de la librairie Soramps à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage « Les âges de la vie », écrit en collaboration avec l'historien Yvan Broard. Or, les questions médicales, anthropologiques et d'éthique auxquelles il a répondu lors de la présentation de cet ouvrage, il fut aussi question de politique. Homme de gauche, Axel Kahn s'est présenté en juin 2012 aux élections législatives sous la bannière du Parti Socialiste face à François Fillon, UMP, dans une circonscription parisienne. À l'évocation de ce souvenir récent, Axel Kahn n'a pu résister au plaisir de pratiquer une certaine ironie devant le vaudeville qui secoue l'UMP en ce moment.
Il y a, comment dirais-je, une petite ironie dans la manière dont je vois ces rebondissements. Un léger sourire. J'essaye de garder mon sérieux, néanmoins. Je me rappelle qu'il y a encore une semaine, les journaux et notamment les magazines titraient sur les amateurs, l'amateurisme, les couacs, etc. Donc, mon sourire ironique se fait plus persistant. Pour ce qui est de François Fillon, qui est un homme qui, a priori, me heurte moins dans ses opinions que Jean-François Copé. C'est un homme de la droite classique, alors que Jean-François Copé appartient à une droite bonapartiste très proche de ce que représentait Nicolas Sarkozy, et sans doute plus proche des thèses du Front National que ne l'est François Fillon. J'avais des reproches à faire à François Fillon. En particulier, c'est que la manière dont il a conçu son travail et son rôle d'homme politique de premier plan, puisqu'il espère être président de la République française, être en situation d'être président de la République française, m'a un peu heurté. Je trouve qu'il a manqué en de multiples occasions de courage, compte tenu de l'image qu'il veut donner de lui-même, c'est-à-dire d'un homme d'une droite civilisée, humaniste. Je ne l'ai pas entendu une fois protester contre le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. Je ne l'ai pas entendu une fois protester contre l'amendement Guéant qui pratiquement interdisait à des diplômés de très haut niveau dans notre pays, mais issus de pays étrangers, de faire une première expérience professionnelle dans notre pays. Il a tout à fait considéré que le discours de Dakar lui allait fort bien. Et ça, je crois que ce manque de courage politique, c'est en partie ce qui explique sa désillusion actuelle.
Axel Kahn qui avait lui-même perdu les élections législatives face à François Fillon. Il était de passage à Alès cette semaine pour présenter son dernier livre, Les âges de la vie. Et il répondait aux questions d'Yves Defago de Radio Grille Ouverte. Fini le papier, place à la dématérialisation. La Direction régionale des finances publiques et la Chambre régionale des comptes ont signé cette semaine dans l'Hérault, à l'Audève, une convention de dématérialisation des actes comptables et autres pièces justificatives avec la communauté de communes du Lodévois et l'Arzac. Désormais, toutes les opérations effectuées entre la trésorerie et la collectivité se feront sous forme de fichiers informatiques, une première dans le département de l'Hérault, sur laquelle revient Nadine Chauvière, la directrice régionale des finances publiques, au micro d'Alain Mendès de Radio Lodève.
Alors effectivement, la Direction générale des finances publiques s'engage fermement dans la dématérialisation, donc dématérialisation dans les échanges que nous avons avec les différentes collectivités locales. Et nous avons un premier objectif qui se situe à horizon 2015, qui consiste à mettre en place cette dématérialisation avec les collectivités les plus importantes de chaque département. Effectivement, c'est un travail important pour les collectivités, c'est un travail important pour nous, mais c'est un véritable investissement pour l'avenir, à la fois en termes d'efficacité de nos procédures et en termes de qualité comptable et en termes de transparence, sans parler de tout l'aspect suppression du papier qui, en termes environnementaux, est aussi un objectif tout à fait important.
627 millions de feuilles sont traitées en France chaque année ?
Tout à fait, par nos services et par les collectivités locales et par les chambres régionales des comptes également. Donc, vous voyez que c'est un défi majeur et extrêmement important, à la fois parce que ça supprime des tonnes de papier, ça supprime aussi des tonnes de manipulations qui font que nous avons besoin d'employer des gens qui sont chargés de trier, de transporter, de conserver, d'accéder aux informations. Donc tous ces travaux-là seront évidemment beaucoup plus simples par la suite.
Alors concrètement, cette convention de dématérialisation va changer quoi ? La réponse de Jean Trinquier, premier vice-président de la communauté de communes en charge des finances. Il est aussi le maire du village du Cailar sur le plateau du Larzac.
C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, je descends régulièrement à la communauté de communes pour signer un certain nombre de mandats et de titres. Aujourd'hui, je pourrais le faire du Cailar, de mon bureau, de mon ordinateur, en ayant toute l'information disponible sur mon écran. Alors bien sûr, il y a des choses à des moments donnés qui me paraîtront devoir être approfondies et je pourrais dialoguer avec la personne qui a proposé les choses à la signature. Ce qui n'empêchera pas, bien sûr, le contact régulier au siège de la communauté de communes pour rencontrer chacun des agents et des cadres qui travaillent sur les dossiers. C'est un grand progrès. Si je regarde la pile de papiers que j'ai signé dans cette année 2012... je me dis que je comprends pourquoi j'ai une tendinite à la main droite. Et donc c'est une façon moderne de travailler qui économisera aussi du papier et puis qui situe la communauté de communes du Lodévois et l'Arzac dans une institution de progrès puisque nous sommes les premiers dans le département avec tous les échanges qu'on a eus avec la direction des services fiscaux à Montpellier à mettre en œuvre cette procédure. Et bien sûr, beaucoup d'autres collectivités vont suivre pour qu'à un moment donné, toutes les collectivités, effectivement, soient dématérialisées en quelque sorte.
Jean Trinquier, le maire du Cailar dans l'Hérault, au micro d'Alain Mendès de Radio Lodève.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales.
Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Mémoire ouvrière, c'est le nom de la manifestation qui se déroule jusqu'à dimanche soir à Ganges dans l'Hérault. Comme son nom l'indique, ces rencontres doivent permettre de redonner une visibilité à l'histoire ouvrière cévenole. Qu'il s'agisse d'une mémoire ancienne comme celle des mineurs de Saint-Laurent-le-Minier, petite commune voisine de Ganges et dont les mines n'ont fermé qu'en 1991, une exposition leur est d'ailleurs consacrée, ou une mémoire plus récente comme celle des ouvriers de l'usine Well au Vigan. entreprise emblématique du secteur textile très présent dans les Cévennes. Cette usine a connu son dernier plan de licenciement en 2006, ce qui a provoqué le départ de 1000 salariés sur 1200. Jean-François Nau, sociologue et réalisateur, s'est intéressé à l'après-licenciement en suivant quelques salariés dans leur reconversion. Son documentaire intitulé « Well, des hauts et des bas » sera projeté en avant-première lors de ce festival Mémoire ouvrière samedi soir. Il explique qu'au micro de Rémi Goujon de Radio Escapade l'historique de ce documentaire.
J'avais le sentiment qu'on ne voyait toujours, que ce soit à la télé ou même au cinéma et même dans le documentaire, les ouvriers et les ouvrières que sur le mode de la représentation colère ou galère, comme s'ils ne pouvaient pas échapper à ça. Alors que les ouvriers et les ouvrières ne sont pas toujours en colère et toujours en galère, ils ont raison d'être en colère. Mais il y a une énergie positive qui est là, et cette énergie positive, on ne la représente pas, on ne la voit pas. Pourquoi les médias se refusent à montrer ça? J'ai senti que les gens avaient pu bénéficier d'un accompagnement positif au fur et à mesure des plans sociaux. Et au quatrième, à force de, c'est un rapport de force sociale, c'est-à-dire que les syndicats et les ouvriers d'entreprise se battent pour améliorer le plan social du point de vue financier, prime au départ, mais aussi du point de vue qualitatif, c'est-à-dire comment ce plan social va nous permettre de nous reconstruire. Et ça a été très important, je pense, pour les ouvriers et les ouvrières, de voir qu'il y avait la possibilité d'être accompagné, d'être aidé, d'être orienté. Peut-être une piste à suivre pour les multiples plans sociaux.
Jean-François Nau, réalisateur du documentaire « Well, des hauts et des bas » en avant-première ce samedi soir, le 1er décembre, à 18h à Ganges, au cinéma L'Arc-en-Ciel. Hospitalisés au sein du CHRU, les enfants doivent pouvoir continuer à avoir un accès à un enseignement de qualité correspondant au programme de leur école, lycée ou collège et pouvoir, si nécessaire, passer les diplômes au sein même du centre hospitalier. C'est ce que recommandent les textes ministériels depuis 2009. Ainsi, en partenariat personnel soignant et enseignant, anime un parcours scolaire à l'hôpital adapté à l'enfant ou à l'adolescent en fonction de sa pathologie. Cédric Combé d'RCF Maguelone-Hérault a demandé à Jocelyne Navarro, responsable pédagogique de l'unité d'enseignement du centre hospitalier de Montpellier, le pourquoi de cette unité.
C'était une nécessité de répondre au texte ministériel de 2009 sur la création de ces unités d'enseignement dans les hôpitaux et dans les centres de soins de France afin de se structurer et de répondre à tous les programmes, à toutes les conditions de l'éducation nationale, quel que soit le lieu d'enseignement. Et c'est l'éducation pour tous, quel que soit l'enfant, la maladie frappe toutes les couches sociales. Nous sommes là pour tous les enfants qui sont hospitalisés, nous leur offrons le même droit. D'où qu'ils viennent, c'est le droit, je pense, international, le droit à l'éducation pour tous.
Concernant l'enseignement, Jocelyne Navarro, il y a des enfants avec des séjours longs et des séjours courts. Pouvez-vous nous expliquer ces deux cas concrets?
Alors, pour ce qui est en effet des séjours courts, quand il s'agit de deux jours, trois jours d'hospitalisation, l'enseignant du service ne fait que passer, prendre un contact avec la famille et l'enfant et se met à disposition si jamais il y avait besoin d'un aménagement particulier lors de son retour. Par exemple, les fractures, l'enfant sort avec des plâtres. Est-ce qu'il va falloir aménager dans son établissement d'origine? Eh bien, des cours en rez-de-chaussée. Donc, l'enseignant se met à disposition de la famille pour prendre le contact avec l'établissement. Ou alors, l'enseignant va diriger la famille vers les professionnels les plus appropriés pour régler certains détails ou certains aménagements. Donc, ça, c'est pour les séjours courts. Et l'enfant qui pourra éventuellement venir dans la classe de l'enseignant, puisque chaque enseignant dispose d'une salle de classe dans le service pédiatrique, même pendant un très court séjour, l'enfant peut venir dans ce qu'on appelle le temps de classe ouverte pour un atelier avec sur une matière, on va dire, transversale. Ça peut être en histoire, géographie, un atelier de travaux manuels, d'art. Et simplement, par plaisir, il peut y venir. Alors, pour ce qui est des séjours longs, nous allons donc, on envisage surtout les maladies lourdes, l'oncologie et d'autres pathologies aussi, hein, en neurologie, des maladies très lourdes. Donc ces enfants-là sont pris en charge scolaire et tout à fait différente. Là, l'enseignant du service va formuler un projet scolaire adapté avec l'établissement d'origine de l'élève, qui reste toujours inscrit dans son établissement d'origine. Et les enseignants, tant de l'hôpital que de l'établissement d'origine, vont faire avancer le jeune dans son projet scolaire, adapté en fonction de sa maladie, de ses soins et de son état de santé, de sa fatigue. Ce projet va être tout à fait adapté, remodulé en fonction de l'évolution de la maladie et de ses conséquences.
Enfin, 15 enseignants du premier et second degré ont été détachés pour cette unité d'enseignement en milieu hospitalier. C'était Jocelyne Navarro, la responsable pédagogique de cette unité d'enseignement au CHRU de Montpellier, Arnaud de Villeneuve. Un sujet de Cédric Combé d'RCF Maguelone Hérault. La judokate audoise médaillée de bronze au JO de Londres, Autumn Pavia, vient de signer un partenariat de 4 ans avec le Conseil général de l'Aude. Éric Boyer d'RCF Pays d'Aude a rencontré Autumn Pavia.
Bah moi je suis contente parce que je me dis que je suis utile, je me rends utile si je peux aider un petit peu avec ma notoriété donc, que j'ai aujourd'hui, bah ça me fait plaisir pour le département, donc c'est avec une grande joie que j'ai signé cette convention ce soir.
Vous disiez que vous ne vous sentiez pas toujours soutenue et aujourd'hui ça fait plaisir.
Oui, bah là depuis que le Conseil général m'a quand même déjà suivi, on a dit il y a déjà 6 ans, j'avais déjà eu une aide et tout. Donc, mais là c'est vrai que bah là c'est, je le ressens beaucoup plus, c'est officiel et on va être amené à se revoir beaucoup de fois et à travailler ensemble. Donc c'est un plus pour moi.
Ça donne du sens à votre sport d'avoir le département derrière vous.
Bah bien sûr, oui, parce que bah, on a toujours envie de représenter d'où on vient. Moi, bah c'est vrai que ça me donne envie, ça me donne encore plus envie d'amener le département plus loin. Donc oui, c'est vraiment important.
André Viola, c'est de voir François Hollande assister à sa médaille qui vous a donné envie, c'est quoi?
Ah, j'ai râlé là, oui, j'ai râlé parce que moi, à ce moment-là, j'étais au Brésil. Mais je disais à Autumn tout à l'heure que c'est peut-être un signe prémonitoire parce que dans 4 ans, c'est elle qui y sera. Non, mais je crois qu'on a l'habitude d'aider le sport amateur, le sport professionnel aussi dans ce département. Et moi, après ces Jeux Olympiques, j'ai eu envie d'accompagner dans la durée Autumn, donc sur la durée de l'Olympiade, pour qu'elle prépare dans les meilleures conditions possibles cette échéance.
Et au travers de ce partenariat, le Conseil Général s'engage à soutenir Autumn Pavia à hauteur de 6 000 euros par an. Une reconnaissance très appréciée par le père d'Autumn, Richard Pavia.
Ah bah écoutez, pour moi c'est énorme parce que ça fait 17 ans maintenant que j'ai ouvert ma salle sur Carcassonne, hein, donc le Budo Club. Et Autumn a commencé chez nous, elle a eu ses premiers gros résultats chez nous. Et c'est vrai que dès qu'elle est arrivée dans le haut niveau, elle a été inspirée dans des structures de haut niveau. Et donc elle est par la force des choses partie du département. Et le fait qu'elle revienne dans son département d'origine, qu'elle signe un partenariat avec le département, pour nous c'est énorme parce que ça prouve que notre travail est enfin reconnu au sein du département. Et donc c'est très valorisant pour elle comme pour nous.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Merci à vous de l'avoir écouté. Pendant 4 semaines, c'était Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault qui était là pour assurer la présentation. Merci à toutes les radios qui ont produit ces reportages. Le mois prochain, vous retrouverez Ludovic Terrol de 48 FM Mende pour la présentation de votre carnet de région. Bon week-end.